Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. La musique de chambre a été pour vous celle des chambres d'hôtel. Au cours de voyages qui ont formé votre jeunesse, votre retour, c'est celui de l'ex-enfant prodige. Bonjour Thibaut Covin.
Bonjour.
Alors, on vous connaît peu, alors que le public vous connaît beaucoup. Vous êtes un guitariste de renommée mondiale, vous jouez dans le monde entier, et votre parcours est totalement atypique, et ce parcours, on va l'évoquer aujourd'hui, à travers des dates clés, selon le principe de l'émission de Sud Radio. Alors, la première date que j'ai trouvée, c'est le 17 avril 2002. Alors, ça se passe sur France 3 Bordeaux, le 12-14, et vous êtes dans un parc, et vous êtes en train de jouer un morceau de guitare, et le journaliste explique que vous venez d'être admis au Conservatoire de Bordeaux avec un premier prix. Vous vous souvenez de cette séquence ?
Oui, tout à fait. Oui, maintenant que vous l'avez rappelé, ça me revient. Oui, je suis né à Bordeaux, très attaché à la ville. Et en effet, c'était une des premières émissions que je donnais. Et c'était dans un parc, pour les Bordelais qui connaissent peut-être, qui est le Parc Bordelais.
Oui.
Et là, je jouais quelques notes de guitare. Il y avait une première interview. Je découvrais ce monde avec plaisir. Et je découvrais aussi que ces notes de guitare que je jouais depuis toujours commençaient à avoir de la valeur. Et c'était le début d'un chemin.
Oui, parce que vous êtes admis au Conservatoire de Paris avec un premier prix. Pour les Bordelais, c'est un événement.
Oui, dans ma vie aussi, ça actait le fait que je jouais bien.
Vous avez commencé la guitare à 5 ans.
J'ai commencé tout petit, en effet, avec mon père. Et la guitare était omniprésente à la maison. Et tout naturellement, j'ai commencé à jouer à l'âge de 5 ans.
Voilà. Et votre père qui lui aussi joue de la guitare. Il s'appelle Philippe Covin.
Oui.
Il a fait un album qui s'appelle Memento, et c'est la partie mélodique de cet album.
Oui, tout à fait. Il a une vie de guitariste très diversifiée, éclectique, riche, inclassable, influencé de tout et de rien. Et lui était au départ dans des groupes de rock à la mode à Paris, puis il a bifurqué vers le jazz, les musiques improvisées, de plus en plus barrées, disons. Et puis... quelques années après, il a découvert la guitare classique et il est tombé amoureux du répertoire, du patrimoine, du son. Et moi, je suis né à cette époque de sa vie, c'est pourquoi il m'a tendu une guitare classique.
Oui, mais alors, il y a beaucoup de jeunes qui débutent la guitare, qui l'arrêtent 2 mois plus tard. Vous, c'est devenu une passion totale et intégrale.
Totale, mais c'est même pas réellement été un choix. La guitare faisait partie de moi depuis toujours. Quand je suis né, elle berçait mes journées, celle de mon père. Puis après, quand j'étais suffisamment grand, j'ai commencé à jouer sans réellement réfléchir. La musique était tellement omniprésente à la maison que je pensais que c'était pareil partout, que tout le monde était musicien, que tout le monde était guitariste. Et j'ai vraiment eu cette approche parfaitement naturelle.
Vous faites le cycle musique-études, comme beaucoup d'artistes. Vous vous retrouvez au conservatoire avec un professeur qui s'appelle Olivier Chassin. Qui va vraiment croire en vous.
Oui, qui m'a énormément apporté et qui avait une vision très différente de celle de mon père. Et j'ai eu aussi cette chance qu'Olivier Chassin était professeur au Conservatoire de Bordeaux, puis au Conservatoire supérieur de Paris. Du coup, j'ai pu suivre son enseignement pendant plusieurs années. Et il avait une vision très savante, très intellectuelle de la musique, avec une culture infinie. Et mon père, lui, m'apportait plutôt une approche très physique, du cœur, créative, délirante. Et ces deux écoles... était, je crois, très complémentaire.
Voilà. Alors, il faut savoir qu'Olivier Chassin, c'était un élève d'un grand maître de la musique, de la guitare, Alexandre Lagoya, que j'ai connu. C'était un personnage extraordinaire. Vous dîniez avec lui, vous étiez 9. On prenait tous 9 pizzas énormes et 9 cafés liégeois, et il finissait tout. C'était une sorte de géant de la musique et de la vie. Alors, résultat, vous allez avoir un prix Alexandre Lagoya plus tard, mais vous allez être un recordman. Je crois qu'à 20 ans, vous avez battu le record du nombre de prix possibles et imaginables, Thibaut Covin.
Oui, après, je ne sais pas si ça a grand sens, surtout. Voilà,
mais 36 prix avant 20 ans, 36 premiers prix, c'est quand même pas si fréquent.
Oui, c'est vrai que c'est un petit record et qui, je crois, n'a pas encore été dépassé. Mais voilà, moi, j'ai été pris de passion pour ça, ce monde. Il se trouve que dans la vie d'un musicien classique, quand on veut faire carrière, se faire connaître, c'est un tremplin un peu obligé. Les concours internationaux, comme des compétitions de sport, on va de ville en ville, des grandes capitales du monde, et on rivalise avec amitié, mais avec l'élite des jeunes guitaristes du monde. Ça plaît pas à tous, mais c'est un tremplin un peu inévitable. Et moi, j'ai eu cette chance de vivre ça très, très jeune. naïvement, et ça m'a passionné. J'ai aimé la dimension un peu sportive de tout ça, et voilà, j'avais l'impression d'être un petit fédéraire, et j'allais un jour à Lisbonne, à Vienne, à Londres, et je jouais du mieux que je pouvais. C'était à la fois très marrant, mais aussi extrêmement enrichissant, parce que ça a habitué à toujours repousser ses limites, à jouer de mieux en mieux. Tout ce qui semblait rêver devenait réel, et c'était voilà.
Vous étiez dans le monde entier, vous passez d'une chambre d'hôtel à l'autre, vous êtes sur scène, et ça veut dire des heures de guitare par jour.
Ah oui, toute la journée. Oui, adolescent, je travaillais 8, 9, 10 heures par jour, toute la journée. J'ai même des souvenirs d'enfant, quand j'étais au lycée, j'avais un petit Siao comme un petit scooter, et à la récréation, ça n'avait pas de sens, mais je quittais la classe, je partais en courant sur mon Siao, j'allais faire 4 minutes de guitare, et puis je retournais au cours d'après. Voilà, j'avais l'impression que chaque minute que je passais avec l'instrument était une belle minute gagnée.
Voilà. C'est comme ça que vous êtes devenu un adolescent prodige et maintenant un adulte prodige. On en parle dans quelques instants à travers une autre date, le 18 octobre 2012. À tout de suite sur Sud Radio avec Thibaut Covin.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de Thibaut Covin, guitariste prodige, 36 prix avant l'âge de 20 ans et une longue carrière depuis avec une date 18 octobre 2012. C'est la sortie d'un album qui rend hommage aux villes qui ont marqué votre jeune carrière, et ça s'appelle Cities. Ça rappelle les génériques du cinéma de minuit et tout ce qu'on peut entendre.
Oui, c'est vrai, c'est une musique qui invite à rêver. Et c'est un petit peu des petits films sans images, oui.
Alors justement, cet album City, ça a été un tournant dans votre carrière, car vous avez travaillé avec des compositeurs venus de tous les horizons.
Oui, le voyage fait partie de ma vie aussi depuis toujours. Et j'ai eu cette chance de voir le monde, de jouer aux quatre coins du globe, et d'écouter des musiques, de rencontrer des cultures et de rencontrer des compositeurs. Et je suis très attaché à faire écrire de la nouvelle musique. J'aime le patrimoine que nous avons, du répertoire, mais je pense que la guitare classique est aussi un instrument d'aujourd'hui et qu'elle a une vraie valeur. Et donc j'aime solliciter des compositeurs, collaborer avec eux et faire écrire de la musique de maintenant.
Oui, ce qui est assez rare en général, quand on joue dans l'instrument, le violon, le piano ou autre, on prend des classiques et pas d'autre chose.
Oui, tout à fait. L'instrument, la guitare classique est un instrument finalement assez jeune dans le monde de la musique classique par rapport à d'autres. Et du coup, on a une grande richesse de transcription. On a de très belles pièces, bien sûr, nombreuses. Mais on a aussi cette force, en tout cas moi celle que je revendique, d'être décliné, d'avoir pour cousin le guitariste électrique, le guitariste de jazz manouche, de flamenco. Et tout ça est vraiment une force. Et j'aime mettre en avant cet éclectisme.
Alors Thibaut Covin, c'est vraiment du travail en famille, parce que d'après mes renseignements, il y a un studio en Dordogne, c'est votre marraine, et un studio à Bordeaux, c'est votre parrain.
toute la famille, c'est que des musiciens ou des gens qui travaillent dans ce monde, et j'étais bercé depuis toujours, et encore aujourd'hui, c'est un monde dans un monde.
Alors, le premier album que vous avez enregistré, justement, c'est à Bordeaux, votre ville natale, dans le studio de votre parrain, et c'était un album live.
Oui, c'était cette envie, parce que je suis très... j'aime faire des disques, mais la magie de mes années, c'est quand j'entre en scène, je suis complètement émerveillé par tous ces instants avec le public, le concert et mon amour infini. Et du coup, je trouvais juste d'avoir pour premier disque un disque public pour faire le lien entre ces deux mondes, finalement, oui, le concert et l'enregistrement.
Oui, et puis les chanteurs ont utilisé cette technique, que ce soit Charles Trenet, Edith Piaf, Charles Aznavour et d'autres. Ils ont testé et appris leurs chansons en public et ensuite ils les ont enregistrées.
Ouais.
Et souvent, la version publique n'a rien à voir avec
tout à
celle
fait,
du
ouais.
disque.
Et je fonctionne aussi beaucoup comme ça. Avant d'enregistrer des musiques, j'aime les essayer, si je peux dire, en concert, ou en tout cas les enrichir de l'expérience du public.
Oui, en écoutant le public, ses remarques, ses réflexions, vous sentez tout ça?
Oui. Après, ça peut même avoir un côté un peu spirituel, mais il y a une énergie très forte en scène et je sens quand les moments touchent à la magie, et c'est ma quête ultime. Ouais.
Alors, il y a un compositeur qui est cher à votre cœur et qui est dans ce premier disque, qui est Scarlatti. Scarlatti, un compositeur italien sur lequel on sait peu de choses d'ailleurs. Il a été chevalier, maître de chapelle au Vatican, et il a composé 555 sonates uniquement pour payer ses dettes de jeu.
Oui, 555 courtes pièces, oui. qui sont toutes très belles, je trouve, qui sont joyeuses, alors que finalement, en effet, c'était pour des raisons pas très heureuses, mais elles sonnent joyeuses, comme il devait être, je pense. Elles sont solaires.
Il y a des musiques classiques qui vous touchent, qui touchent votre cœur, Thibaut Covin.
Beaucoup. Et Scarlatti fait partie de ces compositeurs qui me rendent heureux, comme Vivaldi aussi. J'ai pu consacrer un disque à ces musiques. Je trouve que c'est des musiques qui donnent le sourire.
Oui, et en même temps, sortir un album de guitare qui en plus se vend, c'est assez rare. Allez, avant vous, personne ne l'a fait, à part la Goya qui l'a fait avec Bolling. Mais c'est très rare, Thibaut Covin.
Je sais pas. Après, moi, j'aime penser que la guitare est l'instrument familier par excellence, que l'instrument le plus joué dans le monde, le plus décliné, un instrument intime, un instrument qui invite à voyager en soi. Et je l'aime, et donc je peux pas envisager que d'autres ne l'aiment pas.
Oui, en même temps, vous êtes un phénomène discographique, et aussi, vous correspondez à un autre phénomène qui était Richard Clayderman, je sais pas si vous l'avez entendu parler, qui était le pianiste de Thierry Leluron. Un jour, il enregistre par hasard une sonate qui est un disque populaire, composé par Paul de Senneville, la Ballade pour Adeline. Résultat, il a vendu 22 millions de disques dans le monde. Donc ça veut dire que le public aime ce genre de choses.
C'est difficile de vraiment savoir ce que le public aime et quel public. Mais c'est vrai que moi, je joue ces notes de guitare qui ont un parfum de voyage, qui invite à rêver. Et je crois qu'on aime tous rêver. Et c'est peut-être pour ça qu'elle résonne en chacun, j'espère.
Alors, vous avez une guitare très particulière qui a été conçue pour vous par un luthier de Bordeaux, je crois, qui s'appelle Jean-Luc Joie, Thibaut Covin. C'est une guitare acoustique amplifiable. Qu'est-ce que c'est ?
Exactement. C'est un personnage formidable, Jean-Luc Joie, qui travaille aujourd'hui avec son fils, qui est à la fois un luthier traditionnel, qui est amoureux du bois, de la fabrication artisanale, ancestrale, et qui, en même temps, a un pan de lui qui est un chercheur savant fou et qui cherche toujours à renouveler, à inventer et à faire évoluer les choses. Et j'ai la chance de jouer avec ces instruments depuis longtemps et de travailler avec lui.
Mais qu'est-ce que c'est cet instrument ?
Et donc c'est une guitare classique qui a le son qu'on aime, mais qui a cette possibilité d'être amplifiée et donc de pouvoir jouer dans des grandes salles et en retrouvant ce son intime, pur, beau, mais avec une puissance de salles, de milliers de personnes.
Et un système moderne sans film, un peu comme le Bluetooth.
Exactement. En plus, tout est invisible. La guitare est esthétiquement très belle. Il n'y a aucun câble. Tout passe par, en effet, un système Bluetooth, Wi-Fi ou autre. Et du coup, c'est invisible et le son est très beau. On retrouve l'intimité dans la grandeur.
Et vous êtes le premier au monde à avoir utilisé cette guitare.
Oui, je suis même un peu l'initiateur de ces idées. Moi, je le savais, chercheur, et toujours envie de faire évoluer les choses. Et il y a quelques années, j'étais confronté de plus en plus régulièrement à jouer dans des grandes salles. Et donc, au problème du volume de notre instrument qui est peu puissant et donc confronté à l'amplification qui n'est pas toujours idéale. Et je lui avais demandé un soir au Canada, après en avoir eu une expérience un peu malheureuse, je l'appelle au milieu de la nuit et voilà, il me répond. Je lui dis, il faut que tu trouves quelque chose, toi qui aimes chercher, invente-nous une guitare qui est belle et qui sonne fort.
Alors, on sait qu'un violoniste ne quitte jamais son violon. Est-ce que c'est le cas du guitariste avec sa guitare, Thibaut Covin?
Oui, c'est vrai que la guitare est omniprésente dans mon quotidien et avec moi. Et je passe.
Parce qu'un violon, ça vaut une fortune. Une guitare, c'est peut-être beaucoup plus abordable financièrement.
Oui, clairement plus. Parce qu'aussi, la guitare n'a peut-être pas la durée de vie du violon. Le violon s'embellit chaque année sur des décennies, voire des siècles. Alors que la guitare a généralement une vie plus courte.
Oui, alors il y a quand même une guitare qui vaut très cher. C'est celle de John Lennon de 64. Elle a été vendue aux enchères 750 000 euros voici quelques mois.
Ah là, on peut commencer à concurrencer certains violons.
Voilà. Alors, il y a aussi un album que vous avez réalisé, étonnant. C'est un album au château Lafitte Rothschild. Vous avez décidé un jour d'aller dans ce château, dans ces vignobles, pour que le son soit excellent et pour enregistrer un album. Expliquez-moi, Thibaut Cobain.
Je suis très attaché au lieu où je me produis et j'aime être inspiré par des endroits merveilleux. Et aussi ce disque, autour des compositions d'Isaac Albéniz, j'avais fait un très gros travail autour du son, essayer d'avoir une âme dans chacune des notes que je jouais. Et je rêvais d'un lieu dont l'acoustique naturelle soit porteuse et idéale pour que ma guitare y chante et que ce disque y fasse sens. Et donc je suis parti en quête d'un endroit où, avec une acoustique comme ça, un peu comme une chasse au trésor. Et je cherchais dans ma région, parce que je suis attaché à Bordeaux. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans l'éché du château Lafitte Rothschild. Il se trouve que le vin qui y repose est merveilleux, mais l'acoustique du lieu, de ce ché, est tout aussi magique. Et j'ai passé une semaine là, au cœur du château, entre les barriques, dans cet endroit complètement romanesque, à enregistrer ces notes, à boire un peu de vin le soir, j'avoue, et c'était une semaine féerique.
Oui, mais en même temps, c'est comment un chai peut-il avoir une sonorité particulière?
C'est un hasard absolu, parce que l'architecte Ricardo Boffi n'avait pas du tout pour projet de faire un lieu de concert ou d'enregistrement, mais il se trouve que, par chance, ce lieu a une acoustique magique.
Alors, je me suis un peu renseigné, la première référence connue de Lafitte remonte à 1234, avec un certain Gombaud de Lafitte, abbé du monastère de Verteuil, au nord de Pauillac, et ensuite la seigneurie de Lafitte est arrivée au XIVe siècle, et dans la foulée, il y a eu les premiers crus, les premiers vins.
Ah,
et Lafitte, ça vient de Lahit, la butte. Voilà, vous savez tout.
Ah, merci beaucoup. Le monde du vin me fascine aussi. Il y a une dimension très artistique, artisanale, historique, recherche. Enfin, ça rassemble presque. Enfin, oui, ça rassemble tous les paramètres que j'aime et que je retrouve dans la musique.
Vous avez beaucoup de trophées, de prix. Qu'est-ce que vous en faites?
J'avais pas de maison jusqu'à il y a quelques semaines.
Oui.
J'ai vécu comme un nomade pendant toutes ces années. Et du coup, je cultivais l'idée de ne rien avoir. Donc, tous les objets qui ne m'étaient pas indispensables, je les offrais ici et là, je les entreposais. Du coup, ces petits trophées sont un peu partout. Et je sais plus où, parfois.
Voilà. En tout cas, vous savez où vous êtes. Vous êtes sur Sud Radio et on vous retrouve dans quelques instants avec une autre date, le 7 février 2020. A tout de suite sur Sud Radio avec Thibaut Cobain.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Thibaut Cobain. Donc, une date importante, votre retour, 7 février et 8 février 2020, à Bordeaux. Vous donnez deux concerts à domicile et des concerts en France de guitare. Il y a un certain temps que c'était pas l'actualité, Thibaut Cobain.
Oui, après, moi, c'est vrai que... Après avoir passé ces concours plus jeune, j'ai eu la chance d'avoir des concerts qui se multipliaient au bout du monde.
En 10 ans, je crois.
Ouais, et ça m'a passionné. En effet, à 20 ans, je préférais aller jouer à Hong Kong et Los Angeles qu'en France. J'ai développé tout ça, ces tournées lointaines et avec passion et avec gourmandise absolue de toutes ces rencontres, ces découvertes, cet émerveillement constant. Et puis il y a quelques années, il y a 7-8 ans, ça m'a manqué de jouer peu en France. Et du coup, j'ai essayé de rencontrer le public français, de rééquilibrer mes années de tournée. Et puis voilà, et aujourd'hui, je joue de plus en plus en France et je suis très heureux de ça.
Voilà, il y a une grande tournée donc, qui débute à Bordeaux. Et Bordeaux, c'est toujours votre ville natale, votre ville de cœur.
Oui, Bordeaux, jouer à Bordeaux, c'est toujours un bonheur. Il y a des amis, mes amis, ma famille, un public qui me suit, certains depuis mes tout premières pour mes concerts et c'est un bonheur de jouer à Bordeaux.
Alors d'après mes calculs, vous avez donné depuis vos débuts plus de 1000 concerts dans 120 pays.
Oui.
Comment on fait pour s'y retrouver là-dedans? Comment il y a les décalages horaires, on sait plus où on est dans les avions, comment ça se passe?
Oui, c'est un quotidien très atypique, mais qui est le mien depuis mon adolescence. Du coup, je me suis habitué à cette vie d'instabilité perpétuelle et les changements d'heures, les sommeils instables, les nuits courtes. Mais il y a une telle énergie de rencontres, de voir le monde, de jouer pour les gens que qu'on oublie qu'on dort peu.
Voilà. Alors, il y a un clip où on vous voit dans une voiture vers l'aéroport et à côté de vous, il y a un passeport. Je crois que votre passeport, il doit être rempli de cachets du monde entier.
Oui, ils sont vite pleins.
Oui.
Et j'avoue ne pas les rendre. Normalement, on doit les rendre quand ils sont pleins pour pouvoir un nouveau. Et j'avoue les conserver pour avoir une petite collection.
Vous avez joué au Carnegie Hall de New York, ce qui n'est pas courant chez les Français.
Oui, j'ai eu cet honneur. Oui, oui.
Il y a eu Chili, Moscou, Pékin.
Oui, j'ai joué plusieurs fois à Pékin, j'y étais encore il y a quelques jours. Et la Chine est un pays qui me fascine, pour plein de raisons. Et y jouer est très agréable. Le public est curieux et les salles sont de plus en plus belles. Aujourd'hui, j'ai fait une tournée il y a quelques mois là-bas. Et c'est des salles absolument futuristes avec des techniciens qui sont aujourd'hui d'une grande compétence et un public de plus en plus curieux.
Et un public très nombreux. Ce sont des salles immenses. On n'imagine pas en France que ça peut donner. Il y a 3 à 4 000 personnes à chaque fois.
Oui, c'est des expériences formidables et j'y vais presque tous les ans depuis une dizaine d'années maintenant et c'est vrai que c'est des rendez-vous qui me sont chers.
Avec un public qui n'est jamais le même, il vous arrive même en cours de concert, je crois, Thibaut Covin, de changer le programme.
Oui, c'est vrai que je suis attaché à l'instant et je cultive ça, être dans le moment et du coup... Parfois, on nous demande d'envoyer des programmes un an à l'avance et j'ai beaucoup de mal à savoir ce que je vais jouer dans un an, dans un endroit, avec un état, un public, une salle. Donc, j'aime faire ça un peu à l'instinct.
Oui, mais à l'instinct, vous pouvez changer un morceau en plein concert ?
Oui, ça m'arrive.
Ça doit être la pagaille dans les coulisses à ce moment-là, mais ça marche. Alors, il y a eu un concert qui vous a marqué aussi, c'est en Géorgie, je crois.
Oui. Mais tous les concerts peuvent avoir ont une force unique et les années passant je suis de plus en plus sensible à voilà comme je disais être dans l'instant et du coup chaque moment est beau quand on le vit pleinement.
Et il y a eu un pari, c'est un concert justement à Paris sur la Tour Eiffel.
Ouais, c'était un rêve de petit garçon et à l'époque j'étais avec un producteur cher ami un peu illuminé aussi et il avait et voilà on avait eu ce rêve, cette envie, c'était une tournée que j'avais baptisé avec Malice Magic Tour et l'idée était de jouer dans les lieux magiques du monde et ça m'a mené après à jouer à la cité interdite de Pékin, dans un palmeret à Marrakech ou dans un temple inca en Amérique du Sud, etc. Et je voulais donc initier cette tournée en France à Paris et l'endroit le plus magique de Paris pour moi, petit garçon dans ma tête, c'était la Tour Eiffel et donc voilà, en me promenant un soir, je lui dis mais voilà où il faut qu'on fasse notre concert, au sommet de la Tour Eiffel.
Et comment ça s'est passé? C'est pas facile à organiser?
Non, c'est pas facile du tout. Mais voilà, il s'est tiré les cheveux, il en a perdu beaucoup, mais on a réussi à faire ça et c'était un super moment, un souvenir d'une vie.
Vous étiez à quel étage ?
C'était au premier étage, parce qu'il fallait malgré tout pouvoir accueillir du public. Donc si on est tout en haut, le lieu est trop petit. Oui. Et donc là, au premier étage, il y a un espace qui permet d'accueillir du monde. Et on avait aménagé cet endroit sous une bulle de verre et face à Paris, face au monde, sous les étoiles. Ma guitare a chanté, je me rappellerai toute ma vie de ce moment.
Voilà. Alors, il faut savoir quand même qu'il y a un musicien qui s'est opposé à la Tour Eiffel. En 1887, lorsque le chantier de la Tour Eiffel est accepté, il y a une pétition dans le journal Le Temps, qui était un quotidien, une protestation des artistes contre la tour de M. Eiffel. Et à l'origine de cette pétition, il y a un certain Charles Gounod. Qui ne voulait pas entendre parler de la Tour Eiffel.
Ah oui.
Et il y a Guy de Maupassant, Alexandre Dumas fils qui l'ont suivi, mais ça n'a rien donné. La Tour Eiffel a quand même grandi. Alors, il y a aussi un autre album qui est sorti l'année dernière, un album étonnant parce que vous êtes accompagné par Mathieu Chédid.
Flot de l'homme qui m'entraîne, qui vient, qui part, qui partirait bien loin de la scène.
Alors ça s'appelle Cities 2, ça s'appelle Flot de l'âme Cap Ferret. Et comment Mathieu Chédid s'est-il retrouvé à vos côtés pour chanter et écrire une chanson avec vous, Thibaut Covin ?
L'idée de ce disque était la continuité du disque Cities 1 sorti quelques années plus tôt de manière plus intime. Et là, j'avais envie de retrouver ce projet qui est ma vie, qui est le voyage. Le concept étant que chacune des musiques raconte un coin du monde qui m'a marqué, qui m'a touché. J'ai choisi 12 villes du monde pour les raconter avec des compositeurs. Et j'avais envie d'aller plus loin que sur le Cities 1 où j'étais en solo. Là, l'idée était de m'associer avec des compositeurs, mais aussi avec des musiciens et issus des villes ou attachés aux villes. Il peut y avoir par le coup, par exemple, Balaké Sissoko, ce joueur de kora avec qui on rencontre Bamako. Il y a le tristement disparu Didier Lecoud, le dernier enregistrement qu'il a donné. Ensemble, on raconte Budapest.
Oui.
Et parmi tous ces invités qui sont issus de différents mondes musicaux, il y a des musiciens classiques, de jazz. J'avais vraiment cette envie de rassembler. Et il y a aussi Mathieu Chédid.
Et ensemble, pourquoi Mathieu Chédid?
Parce que je suis attaché à sa musique depuis adolescent. Je suis attaché au monde qu'il crée. Je suis attaché à sa guitare, à sa voix un peu au perché qui fait penser aux musiques de mon père plus jeune. Et puis voilà, aujourd'hui on est amis. J'ai pu jouer avec lui il y a quelques jours à Bordeaux à l'Arena. C'était une expérience un peu unique aussi pour moi de jouer dans des salles pop comme celle-ci. Et c'était une très belle aventure ce morceau. On a mêlé nos mondes qui peuvent paraître opposés, mais on a essayé ensemble d'en faire qu'un et de créer ce petit conte qui raconte cet endroit que j'aime tant, qui est le Cap Ferret à côté de Bordeaux.
Voilà, vous avez lancé une sorte de bouteille à la mer, ce qui est normal près du Cap Ferret. Il a répondu immédiatement, Mathieu Chédid.
Oui, j'étais très touché de ça. Quelques heures après, il est avec un enthousiasme et un côté enfantin que je peux avoir aussi. On est partis tous les deux avec cette envie de mêler nos mondes, nos guitares et de faire un petit bijou.
Et il y a un clip qui existe où on voit tous les deux faire du surf, qui est votre seconde passion, je crois, depuis toujours.
Oui, je suis passionné par le surf. C'est une passion totale, on pourrait en parler des heures. J'aime voyager pour ça. D'ailleurs, il y a quelques jours, j'étais encore au Maroc pour goûter aux vagues pas très loin d'Agadir, un petit village très beau qui s'appelle Tarazout, que les surfeurs connaissent. Et voilà, je voyage aussi beaucoup pour le surf et je profite de mes voyages de musique pour aller surfer.
C'est né comment, cette passion ?
C'est né comme beaucoup de petits garçons de Bordeaux. On n'est pas loin de l'océan et du coup, on est fasciné par cette immensité, par cette puissance sublime. Et on a envie de plonger dans les vagues et puis ensuite, on a envie de danser avec elles et en surfant, on danse avec elles.
Exactement. Alors, il faut savoir que le surf est né en France la première fois. Il y avait le tournage d'un film Le Soleil se lève aussi, d'Hemingway. Et Dirk Zanuck et Peter Viertel se sont retrouvés à Biarritz en 56. Ils étaient surfeurs, ils n'avaient pas de planche, ils ont fait venir une des États-Unis, ils ont fait du surf. Et c'est comme ça qu'à Biarritz, on a découvert le surf et qu'on a fait venir les premières planches
c'est
des États-Unis.
En Europe même, parce que je crois que Biarritz était le premier point surfé en Europe. Et aujourd'hui, c'est une des grandes capitales du surf avec Osgore, quelques kilomètres plus haut.
Voilà. Cet album a été enregistré, City 2, je crois, au château d'Hérouville, qui a rouvert pour l'occasion.
C'est ça. Là encore, comme avec le disque enregistré au château Lafitte Rothschild, je voulais un endroit qui ait une âme et qui soit magique. Et ce disque qui rassemblait toutes les musiques, qui avait un côté universel, j'ai voulu un lieu qui a abrité l'enregistrement de musique aussi diversifiée que celle de David Bowie, des musiques de films aussi.
Mick Jagger.
Oui, il y a eu une quantité incroyable de sublimes albums qui ont été enregistrés là-bas. Puis ce château est tombé à l'abandon pendant près de 20 ans. Et voilà, et je me suis dit, ça serait une belle folie que d'y retourner, d'y enregistrer. D'autant que le château est en travaux depuis un moment maintenant, il va réouvrir sous peu. Et donc voilà, c'est le premier disque de la nouvelle ère du château. Et c'était un honneur.
Alors, la tournée donc se passe à Bordeaux le 7 et 8 février. Il y a aussi Alençon le 12 janvier, dans quelques jours. Nanterre le 6 février. Et ensuite, une tournée avec l'Orchestre National des Pays de la Loire.
Oui.
Ça, c'est aussi un rêve de travailler avec des orchestres pour vous.
Oui, j'ai ce bonheur de jouer parfois avec de grands orchestres. Notamment, on a une œuvre célèbre qui s'appelle le Concerto d'Aranjuez de Joaquim Rodrigo, oui, qui est une très belle composition. Et j'aurai le plaisir de jouer ce chef-d'œuvre lors de cette tournée qui se ponctuera à Nantes, dans un lieu étonnant qui est d'ailleurs le lieu unique. Et voilà, c'est toujours des expériences très fortes de jouer avec les orchestres. Oui, c'est toujours très beau. J'aime.
Et l'avenir alors maintenant ?
Et l'avenir, j'espère continuer à trouver de jolies idées. Là, je me creuse la tête et le cœur depuis quelques mois maintenant, parce que pour trouver un, une nouvelle aventure, un nouveau projet de disque, une nouvelle série de concerts qui va accompagner ce disque. Et j'ai tellement aimé cette tournée Cities 2 qui continue encore, moins intensément qu'il y a quelques mois, mais il y a encore quelques dernières dates. Et ça a été une aventure qui m'a tellement plu, qui a tellement été belle que j'ai hâte de replonger dans un nouveau monde, mais j'en cherche un qui soit aussi beau, et voilà. C'est pas facile.
Et avec un public qui s'élargit, car les jeunes, grâce à vous, découvrent la guitare classique.
Je suis heureux de ça, j'aime cette idée de jouer pour tous les publics, de jouer pour tous, pour tous les curieux et tous les rêveurs, et je les accueille volontiers, et je suis heureux de voir que les rêveurs sont au rendez-vous.
Et la guitare a encore de l'avenir.
J'espère.
Je vous le souhaite en tout cas. En tout cas, je rappelle que le 7 et 8 février, vous êtes à Bordeaux. Sinon, les autres dates sont sur le site internet, je crois que sur votre site.
Oui.
Et puis, merci de défendre la guitare, la France dans le monde entier. Et puis, vous êtes toujours le bienvenu sur Sud Radio avec de bonnes notes, des notes de joie.
Merci beaucoup.
Dans quelques instants, on retrouve Brigitte Lahaye et nous, on va se retrouver bien sûr demain pour d'autres clés d'une vie. Bonne journée, merci, à demain.